Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du vendredi 30 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Le Conseil d'État français valide l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. C'est le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. Levé du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pesait sur Simone Gbagbo. Au Niger, plus de 8 milliards de francs CFA frauduleusement sortis du trésor public. Certains fonctionnaires sont déjà écroués. Dans l'est de la RDC, au moins 20 médecins congolais sont morts du Covid-19 au sud de Kiev. Arrivés aux États-Unis d'un premier groupe d'Afghans qui ont travaillé pour les Américains en Afghanistan. Dans 10 minutes, vous suivrez également notre journal des JO de Tokyo. Mais d'abord, les nouvelles du monde. Le Conseil d'État français a validé vendredi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo, directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Norbert Zongo avait été tué avec trois de ses compagnons. Les quatre dépouilles avaient été retrouvées calcinées dans le sud du Burkina. François Compaoré est le frère cadet de Blaise Compaoré, chassé en 2014 après 27 ans au pouvoir au Burkina Faso. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a été levé selon une décision rendue publique hier jeudi. Le point avec Rosine Mounezir.
La Chambre considère qu'il est approprié de décider que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo cesse d'être effectif, a écrit la Cour pénale internationale dans une décision datée du 19 juillet et rendue publique hier. Bonne nouvelle pour Madame Simone Gbagbo, elle pourra désormais librement voyager à travers le monde, a réagi son avocat Maître Ange Rodrigue Dadjé. Simone Gbagbo a été réclamée par la CPI pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En mars dernier, la CPI a définitivement acquitté Laurent Gbagbo, qui était également poursuivi. Contrairement à son époux, Simone Gbagbo n'avait jamais été livrée à la CPI. En revanche, elle avait été condamnée à 20 ans de prison à Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Et finalement, elle a été libérée le 8 août 2018, après une amnistie décrétée par le président Alassane Ouattara.
Une affaire de détournement de fonds publics fait la une de l'actualité au Niger. Plus de 8 milliards de francs CFA frauduleusement sortis du trésor public. L'affaire est en instruction et déjà des fonctionnaires sont écroués. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Il s'agit, selon des sources proches du dossier d'agents du ministère des Finances et du Trésor public, pas de précision néanmoins sur les charges retenues contre eux, encore moins sur les lieux de détention. Leurs inculpations leur ont été notifiées par un juge après plusieurs jours d'audition au niveau de la police judiciaire dans cette affaire que certains qualifient de test pour le mandat du président Bazoum Mohamed sur le plan de la lutte contre la corruption et le détournement du denier public. L'affaire en question a surgi après une inspection d'État diligentée sur des sorties de fonds d'environ 8 milliards de francs CFA sur la base de fausses lettres d'autorisation de paiement, des sorties opérées par le chef du service transport de la présidence de la République. Ce dernier est écroué depuis le mois de mai à la prison du Saï à 50 km de la capitale Niamey. C'est dans le cadre du démantèlement de sa vaste chaîne de complicité que ses agents du ministère des Finances et ceux du Trésor public ont été entendus et placés sous mandat dépôt. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Toujours en Niger, plus de 26 000 personnes qui avaient fui en 2015 des attaques djihadistes dans le sud-est du pays ont été reconduites dans leur localité d'origine, dans la région de Difa. Ces déplacés avaient trouvé refuge dans des camps onusiens ou chez des proches à travers toute la région. La police nigériane a ordonné jeudi l'ouverture d'une enquête sur un de ses chefs après qu'une célébrité nigériane des réseaux sociaux actuellement jugée pour fraude aux États-Unis a affirmé qu'il était son complice selon un communiqué. Le commissaire de police adjoint Abba Kyari a été mis en cause par l'influenceur nigérien Ramos Abbas, connu sous le nom de Hush Poupi, qui a plaidé coupable de blanchiment d'argent et d'autres crimes selon des documents judiciaires américains. Les arnaques cybercriminelles de Hush Poupi ont coûté à ses victimes près de 24 millions de dollars, affirme le FBI. En Angola, Isabel Dos Santos va devoir restituer plus de 400 millions d'euros d'actions à la compagnie pétrolière angolaise Sonangol. Dans une décision datée du 23 juillet, l'Institut néerlandais d'arbitrage affirmait que la transaction par laquelle elle a acquis en 2006 une participation indirecte de 6% dans le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia via une société néerlandaise est nulle et non avenue. Accusée de corruption, Isabel Dos Santos est la fille de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique. En République démocratique du Congo, au moins 20 médecins sont morts après avoir été contaminés par le coronavirus depuis mars 2020 dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Le point avec Eddy Isango.
Le docteur Mujuka Banjambaka, président du syndicat des médecins du Sud Kivu, Sinamed, indexe les mauvaises conditions de travail qui font que, selon lui, le personnel soignant est exposé. Les cas ont triplé et même quadruplé avec la troisième vague selon la division provinciale de la santé du Sud Kivu. 320 cas sont enregistrés par semaine d'après le docteur Claude Baïziré de la division provinciale de la santé du Sud Kivu. La RDC cumule 49 562 cas de COVID-19 avec 1023 décès selon les derniers bilans publiés vendredi. Le Sud Kivu vient en cinquième position en nombre de contaminations avec ses 1571 cas, alors que la province voisine du Nord Kivu totalise 4632 cas. D'importants mouvements des populations sont signalés chaque jour entre les deux provinces. Il n'y a plus de doses du vaccin AstraZeneca en RDC, où trois lots reçus ont déjà périmé les 24 et les 27 juin et les 11 juillet, faute de volontaires pour la vaccination.
Toujours en RDC, en civil, un militaire et quatre rebelles d'un groupe présenté par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale ont été tués vendredi dans l'est du pays, a-t-on appris de sources militaires. Les combats ont eu lieu à 25 km à l'est de la ville de Beni, au nord Kivu. En Tunisie, le mouvement Espoir et Travail du député indépendant et ex-blogueur Yassine Ayari a annoncé son arrestation vendredi par des forces de sécurité après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux le coup de force du président Kais Saied comme un coup d'état militaire. Monsieur Ayari a été condamné à plusieurs reprises ces dernières années pour des publications sur les réseaux sociaux, notamment critiques de l'armée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La nouvelle vague de COVID-19 portée par le variant Delta provoque la colère des Américains vaccinés. Quelques 60% des adultes américains sont vaccinés, ce qui est très loin des 85 à 90% nécessaires pour contenir le virus selon les épidémiologistes, et ce même si les doses sont disponibles depuis des mois. De plus en plus de grandes entreprises comme Facebook ou Google annoncent qu'elles exigeront de leurs employés qu'ils soient vaccinés, contribuant à alimenter une dynamique en faveur de l'obligation de vaccination. Un premier groupe d'environ 200 Afghans ayant travaillé pour les États-Unis en Afghanistan, accompagnés de leur famille, est arrivé vendredi sur le sol américain pour échapper à de possibles représailles des talibans à la fin du retrait des troupes étrangères. Le point avec Nanit Talani.
Aujourd'hui est un jalon important. Nous continuons de tenir notre promesse à l'égard des milliers d'Afghans qui ont servi main dans la main avec les soldats et diplomates américains ces 20 dernières années en Afghanistan, a déclaré le président Joe Biden en annonçant cette arrivée tôt ce matin. Ces premiers arrivés ont tous subi de rigoureux contrôles de sécurité. Ils vont terminer leurs démarches administratives et les examens médicaux nécessaires à la base militaire de Fort Lee en Virginie avant de commencer leur nouvelle vie aux États-Unis. Environ 700 sur quelques 20 000 Afghans qui ont travaillé en tant qu'interprètes pour l'armée américaine et qui ont demandé à être accueillis aux États-Unis ont franchi toutes les étapes pour l'obtention d'un visa spécial. Certains seront mis à l'abri aux États-Unis, dans des bases américaines à l'étranger ou dans des pays tiers, le temps d'attendre la fin du processus de visa, a expliqué le président américain.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Get into the game. C'est le moment de suivre notre journal des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Comme il fallait s'y attendre, les chances de médailles africaines se sont concrétisées ce vendredi à Tokyo. Les athlètes africains ont fait fort, surtout dans la discipline du 10 000 mètres où se jouait la finale directe. Timothy Donagmaï.
On attendait le grand favori de l'épreuve, l'Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde de la distance. Mais c'est Selemon Barega qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. L'Éthiopien a été sacré champion olympique du 10 000 mètres devant Cheptegei qui s'est classé deuxième. Barega l'a emporté en 27 minutes 43 secondes. L'autre Ougandais, Jacob Kiplimo, se classe troisième. Il s'agit du premier grand titre de la carrière de Barega à seulement 21 ans, lui qui s'était classé deuxième au Mondiaux 2019 sur les 5000 mètres. Chez les dames, l'Éthiopienne Gudaf Segai s'est imposée dans la deuxième série des 5000 mètres devant la Kenyane Helen Obiri, double championne du monde de la discipline et médaillée d'argent au JO de Rio en 2016. Gudaf a réalisé un chrono de 14 minutes 55 secondes. Mauvaise journée en revanche pour la Burundaise Francine Niyonsaba, vice-championne olympique du 800 mètres et athlète hyperandrogène qui ne peut plus s'aligner sur sa distance fétiche. Elle est sortie des séries du 5000 mètres avant d'être disqualifiée pour avoir marché à l'intérieur de la liste. La finale aura lieu dimanche.
Merci Timothy. Record africain au 100 mètres dames, Nanit Talani.
Marie-Josée Talou a établi son nouveau record d'Afrique en remportant sa série en 10,78 secondes. La sprinteuse ivoirienne se qualifie du même coup pour les demi-finales de l'épreuve. La vice-championne du monde 2017 a égalé au passage le record d'Afrique de sa compatriote Muriel Aouré, aussi qualifiée pour les demi-finales. Cette dernière a terminé troisième de sa série en 11,16 secondes. Demi-finale également assurée pour les Nigérianes Blessing Okagbare, 11,05 secondes, et Grace Nzubeshi Nwakocha. Quant à Gina Bass de la Gambie, elle a établi un nouveau record national de 11,12 secondes et pourrait se qualifier pour les demi-finales sur la base des temps les plus rapides. Les demi-finales auront lieu dimanche.
Merci Nanit. En basketball, les Nigérianes, seules représentantes africaines dans ce tournoi, ont été battues par la France 87-62. Le Nigeria reste donc dernier du groupe B et jouera son prochain match le 2 août face au Japon. Justement, les Américaines qui briguent un septième sacre olympique d'affilée à ces Jeux ont battu le Japon 86-69 et se sont du même coup qualifiés pour les quarts de finale. Nous marquons un arrêt ce soir sur la délégation sénégalaise. Le pays est représenté à ces Jeux avec 9 athlètes, dont 5 ont fait leur apparition et ont été éliminés. Pas de quoi décourager le vice-président du Comité national olympique sénégalais qui garde toujours des espoirs de médailles, Ibrahim Ouad.
D'une manière générale, ils ont eu à se frotter avec l'élite mondiale de l'Olympisme, ce qui est déjà une belle chose. Être parmi les élus qui participent aux Jeux Olympiques, c'est déjà une belle chose.
Les JO se déroulent dans un contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement japonais a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 31 août à Tokyo et l'a étendu à 4 autres départements. Au moins 193 sportifs, membres de l'encadrement, personnel auxiliaire des JO
où journalistes ont été contrôlés positifs au coronavirus au Japon depuis le 1er juillet, dont 109 résidents du pays. Pour le vice-président du Comité national olympique sénégalais, ces restrictions sont normales.
C'est vrai qu'avec la situation, il y a des conditions très particulières, des mesures particulières qui les astreintes, qui pèsent sur les athlètes, sur tout le monde. Mais c'est pour mettre en sécurité tous les acteurs.
Ibrahim Ouad, vice-président du Comité national olympique sénégalais à Tokyo. C'est ici que se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux olympiques.
Merci à Kouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Madelakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, 52 ans, a été définitivement condamné mercredi par la justice française pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans l'affaire des Mie Malaki. Son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020 à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de ses biens. John Lindon a joint Sarah Brembeuf, responsable du plaidoyer Grande Corruption à Transparency International France, partie civile dans le dossier.
Alors c'est une affaire emblématique et historique, historique pour trois raisons. Parce que d'abord, c'est la fin de 14 ans de procédure. Nous avons déposé les premières plaintes en 2007. Nous sommes en 2021 et aujourd'hui, le procès est terminé dans cette affaire. Il n'y a plus de voie de recours. La deuxième raison, c'est que c'était une décision historique parce que c'est la première condamnation d'un dirigeant étranger en exercice pour des faits de blanchiment de détournement de fonds publics. Toutes les autres décisions qui avaient pu avoir lieu avant concernaient des dirigeants étrangers qui n'étaient plus en exercice, qui n'étaient plus au pouvoir. C'est donc une première, c'est un premier message très fort envoyé par la justice française. Et enfin, troisième raison pour laquelle cette décision est historique, c'est parce qu'elle ouvre le chapitre enfin de la restitution. Maintenant que cette décision est définitive, que les avoirs sont définitivement confisqués, on va enfin pouvoir les restituer. Et ça, c'est vraiment historique.
Vous parlez de restitution. Effectivement, dans la condamnation, il est fait mention de la confiscation de tous les biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux. Quel est le sort qui sera réservé à ces biens? À qui vont-ils aller?
Cette décision, elle intervient une semaine tout juste après la création en France, dans le cadre d'une loi, après le vote d'une loi qui crée un dispositif de restitution des biens mal acquis. Et ce dispositif prévoit des garanties de transparence, de redevabilité, d'inclusivité, c'est-à-dire qu'il faut associer les organisations de la société civile française, mais surtout des organisations de la société civile du pays d'origine. Et avec ce dispositif, on dispose enfin d'un cadre légal en France pour restituer les biens mal acquis aux populations dans les pays d'origine. Et donc, les avoirs constitués à Théodorine Obiang seront les premiers qui seront restitués selon ce nouveau cadre juridique. Ça représente une somme très importante pour la Guinée équatoriale. Par exemple, 150 millions, eh bien, ça permettrait de vacciner 3 fois l'ensemble de la population équato-guinéenne. Et donc, on va continuer Transparency International France. On va continuer à être vigilant pour pouvoir avoir le processus de restitution le plus exemplaire, le plus transparent, le plus redevable possible.
Du côté de Malabo, le gouvernement et le parti au pouvoir ont réagi, accusant même la France de néocolonialisme. Comment vous analysez cela?
Évidemment, nous réfutons entièrement ces accusations, ces allégations qui ne sont pas du tout fondées. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a plus d'une vingtaine d'affaires de type bien mal acquis qui font l'objet d'une enquête ou d'une instruction. Et les pays, les dirigeants, les régimes qui sont visés par ces plaintes, il ne s'agit pas d'affaires politiques, il s'agit simplement d'affaires de lutte contre le blanchiment. Et plusieurs pays sont visés qui sont loin de se réduire à l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'Asie centrale, l'Ouzbékistan par exemple, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a des pays en Asie. On est loin de l'accusation caricaturale de justice néocoloniale. Il s'agit simplement d'appliquer les règles en matière de lutte anti-blanchiment et c'est ce qui a été fait. Le droit qui est appliqué dans d'autres affaires qui sont beaucoup moins sensibles politiquement. Il s'agit d'appliquer les normes internationales prévues par la Convention des Nations Unies contre la corruption ou par le groupe d'action financière. Donc, nous espérons que ces décisions de justice elles inspirent d'autres pays, les pays voisins en Europe, voire une autre législation plus ambitieuse au niveau européen, au niveau de l'Union européenne.
Sarah Brembeuf, responsable du plaidoyer Grande Corruption à Transparency International France.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, le salon de l'action gouvernementale se fixe le pari de 5 jours pour promouvoir et vulgariser les politiques publiques du gouvernement de Yaoundé dans les 10 prochaines années. À l'occasion, il a été davantage question de présenter au public le nouveau plan de développement du Cameroun à l'horizon 2030. À Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Lors du salon de l'action gouvernementale, des experts ont débattu sur la pertinence des 7 principaux piliers de la stratégie nationale de développement du Cameroun entre 2020 et 2030. Professeur Viviane Bouélé, enseignante à l'Université de Yaoundé 2, souligne la nécessité de vite compléter ce document dans les 6 prochains mois pour éviter les erreurs du passé.
Il y a des outils de pilotage qu'il faut mettre en place. S'il y a un outil qui a souvent manqué jusque-là depuis le DSRP, c'est le document de stratégie en matière de ressources humaines qui doit accompagner celui-là. Est-ce qu'actuellement nous avons un document d'égale importance qui nous indique clairement les ressources humaines qui doivent accompagner la SND 30? Je vous dis non. Et c'est une préoccupation importante.
Importante aussi pour le développement du Cameroun, les infrastructures routières, surtout en cette veille de Coupe d'Afrique des Nations de football. D'ici 2030, 6000 km de routes à bitumer et 3000 à réhabiliter.
On a eu la chance d'organiser une CAN alors que le programme infrastructure routière du Cameroun est en plein essor.
En vitrine également, lors du salon de l'action gouvernementale, les politiques publiques en faveur des jeunes.
Ils sont 15 312 jeunes Camerounais, mais en termes d'accompagnement à l'insertion, ils sont 3 972 qui ont effectivement été insérés.
Gervais Daniel Nsengui, responsable de la communication du programme d'appui à la rénovation, au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Ce programme existe depuis 2008 et est passé à la 3e phase en 2018.
Les bénéficiaires sont d'abord les jeunes âgés de 17 à 35 ans. Les jeunes post-primaires, c'est-à-dire de niveau 7, nous les formons pendant 2 ans dans les centres. C'est une formation gratuite.
Profitant de la présence de nombreux visiteurs, le comité local d'organisation de la CAN Total Energy 2021 a rassuré les Camerounais sceptiques sur le niveau de préparation du pays. Samuel Zonan Komo, cadre à la cellule de communication du ministère des Sports.
Tous les sites sont prêts, vous voyez qu'ils sont en photo là. Vous avez là Yaoundé Olembe, Yaoundé Fadena, vous avez Douala avec son pendant de Bépanda et de Japoma. Vous avez le site de Limbe Boya, le site de Garoua, le site de Bafoussam.
D'après les organisateurs, environ 80 000 personnes sont venues s'imprégner de l'action gouvernementale durant ces 5 jours. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Nigeria marque cette année la journée mondiale contre la traite des êtres humains par une marche dans la capitale pour sensibiliser sur ce problème. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Nigeria est un pays d'origine, de transit et de destination majeure en Afrique pour la traite des êtres humains. Pourtant, le taux de condamnation des personnes arrêtées en rapport avec ces crimes est faible. Reportage de Timothy Obiezo à Abuja, le récit est de Mohamedou Oumfa.
Quelques 200 personnes, dont des autorités, des membres d'ONG et victimes de la traite des êtres humains, ont pris part jeudi à la marche à Abuja dans le cadre de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, commémorée chaque année le 30 juillet. Yetunde Abraham, une victime de la traite des êtres humains, faisait partie des manifestants.
Je suis heureuse d'être de retour dans mon pays. Ce que j'ai vécu a été une période difficile. Quand je suis allée en Libye, j'ai appris que ce monde n'est pas toujours comme il paraît. Les gens étaient violés, tués. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire.
Abraham dit avoir été trompé par un proche qui lui a fait miroiter une offre juteuse en Allemagne. Dans cette aventure, jusqu'en Libye, elle a dû se prostituer pour gagner de l'argent à reverser aux trafiquants. Elle y est restée 6 ans. Son pays, le Nigeria, reste d'après les Nations Unies un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des êtres humains en Afrique. Pour combattre ce phénomène, les autorités nigériennes ont créé en 2003 une agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes, la NAPTIP. La NAPTIP a secouru plus de 17 000 victimes et condamné 550 trafiquants, un très faible pourcentage de condamnation par rapport au cas de trafic humain. Le responsable de la communication de la NAPTIP, Josia Emerole, explique pourquoi il n'est pas si facile de condamner les auteurs de ces crimes.
The issue of poor prosecution
La question des faibles poursuites n'est pas seulement une affaire nigériane. La traite est un crime clandestin et vous devez prouver qu'un tel crime a été commis. Vous devez présenter la victime et la victime doit être prête à affronter le juge pour témoigner de ce qui lui est arrivé.
Pour Emmanuel Gabriel, fondateur de Symbols of Hope, une ONG qui aide les victimes de la traite à reconstruire la vie, les autorités doivent améliorer leur bilan en matière de poursuite.
Je pense que c'est un taux très, très insignifiant. Il est grand temps de se réveiller, d'arrêter de se tromper, de faire face à la réalité. Aujourd'hui, si vous ne rendez pas justice aux victimes, demain ce sera votre propre fils ou votre propre fille.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 1,4 million de victimes de la traite des êtres humains vivent sous la contrainte, l'exploitation et l'humiliation au Nigeria. Les autorités affirment que ceux qui s'expriment, comme Yetunde Abraham, jouent un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de lutte contre ce phénomène.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Parlons mariage à présent et de l'importance de la dot pour les Béninois. Comme dans plusieurs pays africains, ici aussi, les sommes demandées sont souvent pharaoniques. À l'origine, la dot est un fait culturel symbolique et beaucoup se demandent si elle respecte toujours son rôle. Élément de réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La dot, c'est l'ensemble des biens et ressources financières exigées à un homme avant le mariage. C'est un préalable avant qu'un homme et une femme ne vivent sous le même toit. Au Bénin, elle précède donc le mariage civil et religieux. Elle reste, pour de nombreux prétendants, une étape assez importante.
Elle est capitale parce que c'est symbolique. Ça permet à la femme de se dire que voilà, cet homme s'engage.
Si la femme a dit que il faut me donner 1 million comme dot, le mari est obligé de chercher. Ça. Mais si la femme vous a dit que je ne veux rien de vous, l'essentiel c'est l'amour. Moi j'ai donné le Coran à ma femme.
Tout le monde ne pense pas de la même manière. Ils sont de plus en plus nombreux à avancer que la dot est devenue le marché de la femme et qu'on ne peut les forcer à s'en acquitter.
Quand vous dotez une femme, c'est comme si vous avez vendre votre fille à quelqu'un. La personne peut faire tout ce qu'il veut à votre fille.
D'autres veulent bien faire cet honneur à la femme de leur vie, mais appellent à la modernisation de cette tradition.
Si on peut quand même moderniser un peu et réajuster ce qu'on demande dans les dots là, c'est ça qui valorise vraiment la femme africaine.
On vous dit que vous devez payer la dot, vous voyez qu'à des moments donné ça décourage.
Christian Singhou est content d'avoir pu honorer son épouse en donnant la dot, même s'il raconte qu'il a payé plus qu'il ne fallait.
Moi, on m'avait demandé à l'époque 150 000, moi j'ai pas donné les 150 000, moi j'ai donné tout juste 100 000 francs. Et il y a des trucs qu'il faut donner aussi à la femme, la valise de la femme, ils m'ont demandé des tissus pour tout ça, mais faisait quelque chose de 450 000 francs comme ça.
La dot subit de nos jours une sorte d'exagération, explique Alain Mission, chef traditionnel. Pour lui, le côté tape à l'œil de la dot lui ôte toute sa crédibilité.
Quand les gens font aujourd'hui, ils font une dot avec voiture, avec tout ça là, c'est ce qu'on appelle une exagération. Et cette femme qui aussi accepte ça, c'est qu'elle est arrivée là-bas, elle a des choses qui l'attendent.
Rosette Alidinou est économiste. Elle dénonce également la dot par laquelle de nombreuses familles espèrent régler tous leurs problèmes.
La dot, bien qu'elle a ses avantages, elle crée beaucoup de violence dans les foyers. Parfois, ça crée aussi certaines discriminations à l'égard des femmes. Vu ce qu'elle est aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle ne conserve plus sa valeur parce qu'elle devient trop excessive.
Blanche Sonon est juriste de formation et activiste de la société civile. Depuis quelques années, elle se bat à sensibiliser les femmes sur le code des personnes et de la famille. Pour elle, il faut une sorte de réveil pour empêcher les familles d'offrir leurs filles aux plus offrants.
Avant l'avènement de ce code-là, il y a ce que nous appelions le marché de la femme. Il y a certaines familles qui profitent de cette occasion-là pour régler tous leurs problèmes. Donc, en quelque sorte, on vend la fille à cause de la consistance de la dot.
Au Bénin, dans plusieurs cultures, la femme qui rejoint un homme sans avoir pris la dot est à renier. Dans la conception traditionnelle, c'est l'une des plus grandes hontes qu'une fille peut faire rejaillir sur sa famille et elle est impardonnable. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Mandela Gaïma, Joselle Morissin, Georges et Léonard Sagnon et Michel Claire Joseph. À la présentation, vous étiez accompagné d'Eric Mandela Kiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.